Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie pour le 310e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. À quelques jours des vacances de Pâques, nous assistons, comme souvent lors de ces périodes, à une pause dans l'agenda des concerts. Il est vrai qu'après la profusion d'événements de fin mars, début avril, nos amis musiciens ont bien mérité un retour au calme et un peu de repos avant de reprendre le chemin des salles et des auditoriums. Les représentations de Norma, l'opéra de Bellini, se sont ainsi achevées dimanche au Théâtre du Capitole, les neuf ayant tout affiché complet, ce qui confirme l'engouement du public pour l'art lyrique à Toulouse. Nous allons y revenir et sur bien d'autres choses encore avec les deux fidèles habitués de cette émission, Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Sans plus tarder, nous allons jeter un long regard dans le rétroviseur en revenant sur l'actualité musicale la plus récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Robert et Serge, merci d'être encore fidèles. Bonjour. Au rendez-vous de Mélomanie dans la belle lumière de ce début de mois d'avril. Premier retour sur l'actualité récente avec l'avant-dernier concert de la saison 24-25 des Clés de Saint-Pierre. Il a eu lieu lundi 31 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines. Je rappelle que nous avions reçu la violoniste Éléonore Epp il y a deux semaines pour nous présenter le programme de cette soirée consacrée à des quintettes pour pianos et cordes. Serge, il était titré « Parfum d'Europe centrale ». Ce concert a été remarquable, il ne faut pas avoir peur des mots. Et vous allez nous rappeler d'abord qui en étaient les cinq excellents protagonistes. Il y avait donc Éléonore Epp et quatre autres musiciens de l'Orchestre du Capitole.
Entendu,
non, pas de l'Orchestre du Capitole, parce qu'il y avait un intrus.
Exactement. Et alors, il faut dire que c'est la composition de cet ensemble était particulière, puisque le premier violon, Christy Giesi, bon, que l'on connaît bien, le super soliste de l'orchestre. Et puis, il y avait un couple, Juliette et Pierre Gilles, respectivement altiste et violoncelliste, et une fratrie, celle qui donc est constituée par Éléonore Epp, violoniste, qui était seconde violon, là, et le pianiste, son frère, Thibaut Epp. Et alors, est-ce...
J'ai dit que c'était lui l'intrus, parce que oui, évidemment, il ne fait pas partie de l'Orchestre du Capitole, il n'est pas pianiste attitré dans un orchestre.
Mais on a pu constater qu'il avait un grand talent d'accompagnateur.
Oui.
Vraiment, il se mêlait aux quatre cordes de manière absolument magnifique. Une cohésion magnifique aussi, que l'on peut attribuer au fait qu'il y avait deux couples et une fratrie, donc des gens qui se connaissent parfaitement bien. Ça a été un remarquable équilibre tout au long de la soirée, avec deux œuvres, dont une, je dois avouer, que j'entendais pour la première fois en concert.
Bon, je pense que la plupart des gens entendaient pour la première fois.
Hein. Voilà, c'est une œuvre alors, d'un compositeur hongrois qui s'appelle, alors je vais m'essayer au hongrois, Ernő Dohnányi, et on l'appelle le plus souvent par son équivalent allemand, Ernst von Dohnányi. Donc il y avait deux œuvres, une œuvre de jeunesse et une œuvre de grande maturité. L'œuvre de jeunesse, c'était le quintette pour piano et cordes numéro 1, l'opus 1 d'ailleurs, en do mineur de Dohnányi. Pour le situer, c'est un compositeur qui est né en 1877 et mort en 1960. Et puis il y avait le deuxième quintet, l'opus 81 en la majeure, d'Antonin Dvorak. Alors là, ça datait de la fin de sa carrière, en quelque sorte. Mais alors, la partition de Dohnányi, c'était vraiment très intéressant, en ce sens que l'allegro initial, par exemple, est très chaleureux, les interprètes en soulignaient le lyrisme, puis un scherzo vif et joyeux, avec un trio très coloré, et puis un adagio qui débute avec un solo d'alto, somptueusement nostalgique, je dirais, et magnifiquement joué par Juliette Gilles. C'était un beau moment. Et puis un finale qui s'appelle Allegro Animato et qui évoque un peu une danse d'Europe centrale. C'était complètement Mittel-Europa, hein, là, vraiment dans le style, le tempérament, avec cette coda enthousiaste qui est magnifique. Donc ça a été un grand moment de découverte que ce premier quintette. Le deuxième, alors c'est pas vraiment une découverte puisqu'on l'entend relativement souvent, mais là, on a pu constater que cette œuvre de musique de chambre possédait une ampleur et une durée symphonique. Hein. C'est la durée d'une symphonie. C'était beaucoup plus long que le quintet d'Ornani. Avec là aussi quelques solos, un solo de violoncelle qui était magnifiquement accompagné, je veux le redire, par Thibaut Hepp. Vraiment, ça faisait un duo magnifique.
Alors Thibaut Hepp, il faut qu'on précise, il est chef de chant à l'Opéra de Nice.
Oui.
Donc il sait ce que c'est qu'accompagner,
exactement.
Bon, là, en l'occurrence des chanteurs, mais même aussi des musiciens, et se mettre à leur service pour les faire briller. Ce n'est pas le pianiste qui cherche à briller plus que les
non,
autres.
Exactement.
Même s'il s'agit d'œuvres où le piano est central, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Et virtuose, hein, il y a des moments très virtuoses. Vraiment très très beau, avec... Un premier mouvement à la fois chantant et décidé, hein, rythmé, avec le mouvement suivant, qui est le plus célèbre peut-être de ce quintet, c'est le mouvement intitulé Dumka, c'est un andante con moto, et qui est inspiré en fait d'un genre de poésie, d'un genre slave de poésie, et donc c'est une danse élégiaque, méditative, et qui, en fait, à l'origine, est associée au deuil. Et
c'est
donc,
une balade ukrainienne,
d'origine. Ouais. Oui, oui. Et donc, vraiment un moment très sensible et très émouvant, avec un troisième mouvement qui est le plus bref de tous, un scherzo, alors qui porte la mention « furiante », c'est-à-dire, c'est en référence à une danse traditionnelle bohémienne, hein, danse vive, animée, et puis donc un finale hein, qui évoque un peu une polka, en quelque sorte, là aussi un mouvement de danse, et avec une coda, probablement l'une des plus brillantes qui est écrite de Dvorak, c'était vraiment très impressionnant. Et ça a été acclamé par l'ensemble de l'auditorium, qui était plein, absolument plein, évidemment. Et donc, l'accueil a été tel qu'ils sont revenus sur scène, ils ont redonné en bis le fameux scherzo du quintet de Dvorak. Stimulant, et une fois de plus, donc il faut quand même saluer la cohésion qui est à la fois technique et musicale, hein, dont ces musiciens habitués à jouer ensemble font preuve, hein, d'un vrai bonheur.
Ouais, c'était une très très belle soirée avec ces quintettes pour piano et cordes, on n'en entend pas si souvent
non.
D'ailleurs.
Non.
Ce type de formation en concert. Et nous allons réécouter un extrait du quintet pour piano et cordes numéro 2, opus 81, en la majeur d'Antonín Dvorak, le deuxième mouvement Andante con moto, appelé aussi Dumka. Thank you. le deuxième mouvement Dumka du quintet pour piano et cordes numéro 2 opus 81 en la majeure d'Antonin Dvorak. C'était la première pièce au programme du concert des Clés de Saint-Pierre le 31 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines. Prochain concert des musiciens des Clés lundi 28 avril à 19h30, c'est à la chapelle des Carmélites pour un programme de trio avec piano sous-titré Souvenirs d'Europe centrale. On reste dans la Mitteleuropa musicale. Le lendemain, mardi 1er avril, au même endroit, à Saint-Pierre-des-Cuisines, a été donné le dernier concert de la saison 24-25 des Arts Renaissants, qui accueillait la soprano Patricia Petitbon, accompagnée par l'ensemble Amaryllis, dirigé par Héloïse Gaillard. Le programme était intitulé « Destin de Reine, Serge ». Nous étions présents tous les trois, hein, donc oui. Robert y était également, à cette soirée, et donc nous allons pouvoir faire part de nos impressions respectives. Avant cela, vous allez nous repréciser le programme que nous y avons entendu. C'était plutôt original comme proposition. Hein.
Très original, puisqu'il s'agissait de célébrer trois reines. Avec d'abord Queen Mary, donc la Reine Marie, avec une illustration avec uniquement des œuvres d'Henry Purcell, essentiellement d'ailleurs des œuvres instrumentales, il y avait juste une mélodie. Et puis ensuite, la deuxième de ces reines était Aliénor d'Aquitaine, reine de France et d'Angleterre, avec une pavane qui s'ouvrait signée d'Henry Purcell et surtout la création d'une œuvre de Thierry Esquèche. On connaît Thierry Esquèche, organiste, compositeur, et c'était sur un poème d'Olivier Py, une cantate qui s'intitule « Tombeau pour Aliénor ». Et donc là, c'était vraiment très varié, comme j'y reviendrai. Et puis la troisième reine, c'est Agrippine, la jeune, donc l'impératrice romaine qui était mère de Néron. Et donc, la sœur de Caligula, il faut le faire.
Oui, elle était quand même assez mal entourée, la pauvre.
Oui. Mais d'ailleurs, elle a mal fini. Bon, il y avait donc, là aussi, toute une succession de pièces instrumentales et vocales qui illustraient le portrait d'Agrippine. Avec la première partie, donc Queen Mary, surtout instrumentale, on a pu constater la grande qualité de l'ensemble oui. Amaryllis. Ce sont vraiment de grands musiciens, dirigés par Héloïse Gaillard, qui elle-même joue à la fois des flûtes à bec, depuis le sopranino jusqu'à la ténor, et puis le hautbois, hein, donc l'ancêtre du hautbois, la chalumeau, hein, qu'elle joue magnifiquement, avec des instruments à cordes, dits frottés et à cordes pincées, puisqu'il y avait aussi un théorbe, guitare et un clavecin. Tout ceci complété par une impressionnante batterie de percussions, puisqu'il y avait énormément de percussions, avec de belles couleurs dans ce répertoire. Vraiment très intéressant. Et puis donc, Patricia Petitbon entre en scène et elle incarnait donc la Queen Mary en chantant d'abord un air, Ground Crown the Altar, qui est extrait en l'honneur de l'anniversaire de la Reine Marie de Purcell. Alors, on a pu constater quand même que son timbre s'était un peu assombri. Bon, elle prononce parfaitement les paroles du poème, mais bon, il y a quelques petites difficultés vocales que l'on peut noter. Ensuite, pour la reine de France et d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine, elle s'est surtout déchaînée, on peut dire, dans l'œuvre signée sur un poème d'Olivier Py, de Thierry Esquèche. Et là, alors, c'était vraiment, elle le jouait, elle l'a mis en scène, elle l'a chanté et elle l'a parlé, puisqu'il y avait beaucoup de dialogues parlés, en effet. Et là, on a pu constater son excellente diction de théâtre.
Elle est bonne comédienne.
Ah, excellente. Et puis quelques épisodes carrément de Sprechgesang à la Schönberg ou à l'Albanberg. Vraiment, elle a joué ça de tout son corps, je dois dire, avec parfois des attitudes un peu clownesques, hein, il faut dire.
À la Patricia Petitbon, mais ça, oui, on ça... s'y attendait, et je dirais même qu'il y avait des personnes qui étaient venues pour voir ça.
Sûrement. Et cette œuvre donc, de Thierry Esquèche s'achève sur une chaconne de Thierry Esquèche, mais inspirée d'une chaconne d'Henry Purcell.
Oui.
C'était encadré par de la musique d'Henry Purcell. Et puis enfin, toute la seconde partie du concert est consacré au portrait qu'a brossé Handel de la jeune impératrice romaine Agrippine, et avec des extraits de son opéra éponyme, mais aussi de sa cantate Agrippina condotte a morire. Ça alternait avec des pièces instrumentales dans une sorte, je dois dire, de medley, mais très bien agencé. Alors, quelquefois, Patricia Petitbon peinait à réunir les différents registres de sa voix, hein, avec quelques aigus un peu criés. Mais il faut reconnaître qu'elle incarne un personnage, hein. Elle est un personnage chaque fois. Et à la fin de cette partie, il y a une suite de l'andante d'une sonate. Et donc là, de nouveau, elle évoquait, alors ça je pense que c'est Patricia Petitbon qui en a eu l'initiative, de nouveau le tombeau d'Aliénor, comme pour boucler la boucle en quelque sorte. Il y a eu un bis qui était une danse de marin-marais pour compléter le
Et elle
le
a
programme.
dansé.
Et elle a dansé, mais oui,
elle s'est pas fait prier.
Elle fait tout sur scène.
Oui, oui. Ouais, oui. Alors, Robert, moi je suis assez d'accord avec Serge, les parties parler, chanter, elles s'en tiraient plutôt bien, Patricia Petitbon, sur les parties où là il fallait vraiment chanter, notamment la partie Handel, je suis vraiment beaucoup plus réservé. Alors c'est vous le spécialiste du
ah,
chant,
oui.
Dites-nous un peu.
Oui, mais moi aussi je suis tout à fait d'accord avec Serge concernant l'ensemble Amaryllis.
Ah oui, ah, oui excellent.
Un ensemble
excellent instrumentiste,
remarquable.
Oui, bien sûr.
Et j'admire les nuances de Serge concernant la voix de Patricia Petitbon. Je vais être un peu moins nuancé, pardon, hein, mais bon, c'est une cantatrice que j'aimais il y a pas mal d'années hein, de ça. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que les dernières fois que je l'ai vue, elle essaie de pallier une voix qui s'est irrémédiablement...
Dégradée un peu.
Ouais, dégradée.
Détériorée.
Pas
oui.
Détruite, mais dégradée, oui, c'est oui, ça, oui. Mais pas comme peu, quoi. Voilà. Et elle essaie de le pallier avec une exubérance scénique.
Oui, mais elle a du métier, par contre.
Oui, mais par contre, je ne marche pas du tout, moi. Voilà. Donc, ça...
Bon, ça dépend ce qu'on vient chercher, évidemment.
Pour moi, Handel ne se chante pas comme ça.
Je suis bien d'accord.
Voilà. Non, ça, je suis absolument désolé, mais notons qu'elle remplit les salles.
Ah oui, les gens viennent sur le nom de Patricia
voilà,
Petitbon.
Voilà, sur le nom de Patricia
Petitbon,
parce que ça a été une grande cantatrice, hein, n'oublions pas. La dernière fois que j'ai entendu un Splendeur,
oui,
c'était Dialogue des Carmélites au Théâtre des Champs-Élysées.
Oui.
Et
Blanche de
Blanche, hein.
Blanche de la Force.
Ouais,
après, ça reste un personnage, hein, Patricia Petitbon.
Voilà.
Moi, je comprends qu'on puisse venir pour voir ce personnage sur scène.
Voilà. Mais bon, après, Eric, vous me demandez, moi,
ah non, mais
en tant qu'amateur d'opéra, je peux pas fonctionner sur...
Ouais.
Alors, j'adore, je recherche les gens qui incarnent
oui.
les rôles
oui, oui.
qu'ils chantent.
Oui.
Bon, il n'empêche que cette saison des Arts Renaissance
a été très belle.
A été ah magnifique.
Et puis à côté de ça, l'ensemble Amaryllis, c'était formidable.
Oui,
enfin,
oui,
la première partie, là, très très belle. Excellent ensemble. Eh bien, on va quand même écouter un extrait du programme Destin de Reine, plus précisément la partie intitulée Tombeau pour Aliénor, composée par Thierry Esquech sur un poème d'Olivier Py. Patricia Petitbon chante Soupir, accompagnée par l'ensemble Amaryllis, dirigé par Héloïse Gaillard.
Thank you.
Soupir, extrait de Tombeau pour Aliénor, œuvre de Thierry Esquèche sur un poème d'Olivier Py, chanté par Patricia Petitbon, accompagné par l'ensemble Amaryllis, fondé et dirigé par Héloïse Gaillard. Vous noterez que la prochaine saison des Arts Renaissants a été dévoilée au public. Elle sera bientôt en ligne sur leur site. Elle est magnifique, donc je vous conseille de vous précipiter pour vous abonner ou pour d'ores et déjà réserver vos places au concert qui vous intéresse. Nous allons maintenant nous diriger vers le Théâtre du Capitole pour revenir sur Norma, l'opéra de Bellini, donné à l'occasion de 9 représentations, toutes à guichet fermé, je le rappelle. Il s'agissait d'une reprise de la production mise en scène par Anne Delbé et créée en 2019 au même endroit. C'est sa fille Émilie Delbé qui reprenait la mise en scène avec quelques petites modifications, mais enfin l'essentiel était préservé. Entre autres, la présence du grand cerf blanc, interprété par le comédien Emmanuel Barouillet. Pour le reste, je vais donner la parole à Robert Pénavert et je propose qu'on se concentre sur la distribution et même les distributions, puisqu'elle était doublée concernant les rôles principaux. Parlons d'abord de la première, avec Karine Deshaies dans le rôle de Norma, Robert étant le seul de nous trois à avoir vu les deux distributions, et notamment celle-ci.
Alors donc, effectivement, on ne reviendra pas, puisque de toute façon, nous l'avions évoqué sur cette antenne.
Absolument.
Sur cette production avec ce grand cerf blanc dont vous avez tout de même évoqué le nom. Cela dit, cette mise en scène a quand même un avantage, c'est qu'elle ne gêne pas du tout les chanteurs.
Ah non. Et voilà. Oui, parce que c'est très dépouillé.
C'est extrêmement dépouillé. Les chanteurs sont très souvent face au public.
Voilà. Bon, peu de déplacements.
Voilà. Évidemment, ça manque un peu d'incarnation. Comme on a dit, on ne va pas y revenir. Donc, nous sommes sur la première distribution. La première distribution qui nous faisait retrouver Karine Deshaies, mais pas dans Adalgise.
Eh oui.
Cette fois-ci,
dans la création, elle était Adalgise.
Dans Norma,
il y a 6 ans.
Oui, puisque dans cette production, effectivement, lorsqu'elle a été créée au Capitole, elle chante Adalgise. Mais donc, on savait depuis déjà pas mal de temps qu'elle souhaitait aborder le rôle
de Norma.
Et surtout qu'elle souhaitait un peu s'éloigner des rôles de mezzo-soprano. Alors, le soir de la première, n'oublions pas, il faut toujours
préciser.
Il y a toujours une espèce d'électricité, parfois un peu de fatigue également, parce que les chanteurs sont là depuis un moment.
Oui, une sorte de semaine de répétition.
Voilà, ils ont fait général, pré-général.
Le stress est maximal le jour de la première. Hein.
Voilà. Alors, ceci étant, Karine Deshaies ne m'a pas totalement convaincu. D'abord, au point de vue style, j'ai trouvé son chant relativement haché, mais ça, c'est pas nouveau. Elle a tendance un peu à appuyer sur des syllabes, sur des voyelles en particulier, lorsqu'elle chante, et évidemment dans le registre qui lui convient le mieux, dans lequel sa voix se projette le plus. Du coup, elle a tendance à hacher la ligne musicale. Et ça, dans Bellini, je trouve que ça ne pardonne pas. Après, c'est vrai que le Castadive a été, pour ma part, relativement moyen et moyennement perçu par le public.
C'est là que tout le monde attend, évidemment.
N'ayons pas peur de le dire.
Le rôle-titre.
Et après, bon, par la suite, à partir des duos avec Adalgise, bon, tout d'un coup, la cantatrice qu'est Karine Deshaies a pris le dessus et ça s'est un peu mieux passé. Il y avait Chiara Amaru pour chanter Adalgise.
Soprano italienne.
Qui a une très jolie voix de mezzo, avait un très beau timbre, qui était une parfaite partenaire. Leurs deux voix se sont parfaitement mises en osmose et c'était très bien. Chiara Amaru, c'était la première fois que nous l'entendions au Capitole. Le Pollione, c'était Luciano Ganci. Là, nous avons affaire à un ténor, un grand lyrique, voire un dramatique, avec une voix très homogène, avec des aigus parfaitement couverts. Et vraiment, il fait un Pollione, un officier romain. N'oublions pas, Pollione, c'est pas le duc de Mantoue.
Un officier romain qui en impose.
Voilà. Donc, il faut ce type de voix.
Oui.
Ah, je ne dis pas agressif, c'est pas ce que je veux dire.
Autoritaire.
Oui, voilà, pour le moins, autoritaire. Voilà. Moi, je l'ai trouvé très bien dans ce rôle-là. Il y avait espèce de, comment dire, encore une fois, une statue du commandeur qui venait nous chanter Oroveso, le père de Norma, qui est autre que la grande basse italienne Roberto Scandiuzzi, que nous avons la chance de l'avoir depuis des années, au Théâtre du Capitole.
C'est vraiment l'habitué de la scène du Capitole, pour notre plus grand bonheur.
Voilà, c'est extraordinaire. Évidemment, ce n'est plus la voix d'une jeune basse de 30 ans, bien sûr, mais en fait, il y a quand même une majesté.
Dans ce rôle, c'est ce qu'il faut.
Dans ce rôle, c'est ce qu'il faut. Mais en même temps, il y a une autorité dans le phrasé, dans la ligne de chant. Il y a une connaissance du style belcantiste. C'est absolument sidérant. Tous les chanteurs sont allés lui demander conseil.
Et oui.
Absolument tous. Parce que lui, il a chanté Norma avec les plus grands depuis...
Oui, donc le style, il sait ce que c'est.
Depuis 35 ou 40 ans.
Pour cette œuvre.
N'oublions pas. Oui. Imaginez avec qui il a pu chanter Norma sur les plus grandes scènes du monde. Il me disait encore, pour cette Norma, il me dit, mais moi maintenant, mon travail, oui, je sais chanter aussi, mais c'est transmettre. Et c'est pas pour rien que Christophe Grissi l'invite au Capitole.
Oui.
Alors, il y a deux rôles secondaires, n'ayons pas peur des mots.
Mais bon,
il y a un rôle plus important que l'autre, malgré tout. C'est celui de la suivante de Norma, Clotilde, qui elle est au courant de tout.
Ah oui.
Absolument de tout, la malheureuse, qui s'appelle Anna Ognani et qui est vraiment une voix très intéressante. C'est une toute jeune cantatrice. Hein.
Et elle était dans les deux distributions. Oui.
Et elle était dans... Mais c'est pour... On en rôle. Parle maintenant.
C'est un
parce
rôle
que...
qui... Oui, mais vous
voilà.
Faites bien, vous faites bien.
Mais oui, elle est dans les deux distributions. Ça a un timbre très intéressant. Une actrice, dès qu'elle est sur scène, on la voit. Elle existe dès qu'elle est sur
scène.
Je
confirme pour l'avoir vue. Et Serge aussi, on l'a vue dans la seconde distribution, mais elle est dans les deux. Et elle est très bien. Très bien.
Très bien.
Et enfin, il y a Léo Vermeaux des Roches qui fait Flavio. Alors, c'est un rôle encore plus petit,
je crois,
au point de vue durée. Vraiment, il a pas grand-chose à dire. Sauf que, dès qu'il a commencé à chanter, on a les poils qui se sont dressés.
Oui.
Dis, mais qu'est-ce que c'est cette voix ?
Il détonnait pas du tout dans le décor, au contraire.
Voilà.
Tout jeune ténor.
Belle voix.
Tout jeune ténor.
Et en plus, il a... trois gestes à faire, mais il les fait bien.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et Dieu sait que c'est un petit rôle, Flavio, c'est vraiment faire valoir, et bon, n'ayons pas peur des mots.
Mais c'est pour ça que se faire remarquer dans ce rôle,
voilà,
bah, ça classe quand même un chanteur.
C'est très très fort. J'espère encore une fois que nous le reverrons au Théâtre de Capitole.
Je peux parier là-dessus, je suis sûr qu'on le reverra.
Il y avait quand même aussi un chef d'orchestre.
Et c'était Hervé Niquet, normalement,
c'était
qui devait
diriger. Hervé Niquet qui devait, puis en fait, il s'est retiré de la production... Et cela nous a valu de faire la connaissance un peu en avance.
Oui, parce qu'il doit
diriger, du chef espagnol José Miguel Pérez Sierra, qui est le directeur musical du Théâtre de la Zarzuela de Madrid, qui est directeur musical également d'autres théâtres.
Oui, il a ses lettres de noblesse.
Voilà. C'est, comment dire, la génération montante des chefs espagnols, indiscutablement.
Ouais.
Il est vraiment extraordinaire.
On peut en témoigner avec ça. Enfin, moi, le soir où je suis allé assister à Norma, l'orchestre était parfait. Hein. Parfait.
Absolument.
Ouais. L'équilibre entre la fosse et la scène, remarquable. Je sais que les musiciens ont apprécié de travailler avec lui.
Les chanteurs aussi, je peux vous le dire, pour en avoir interviewé.
Ça ne gâte rien.
Un certain nombre, tous, mais c'est formidable parce qu'ils respirent avec nous.
Ouais.
Il connaît le chant, il connaît la voix, il respire avec nous.
Voilà. Alors, on en parle aussi, le chœur du Capitole était très bien préparé
par Gabriel Bourgoin.
Gabriel Bourgoin,
qui est vraiment
fait
un travail
rien à redire.
Au niveau des chœurs du Capitole absolument
grande
remarquable.
Grande précision, très très bien.
Remarquable.
Donc, avant de parler de la seconde distribution, nous allons écouter Karine Dehaye dans la première partie de l'air le plus célèbre de Norma, Casta Diva. Castadive, chaste déesse, chantée par Karine Dehaye, qui tenait donc le rôle-titre dans Norma au Théâtre du Capitole, en alternance avec la soprano italienne Claudia Pavone, ce qui nous amène à parler maintenant de la seconde distribution, celle que nous avons vue et entendue tous les trois cette fois-ci. Pour ma part, je l'ai trouvée éblouissante. Je n'ai pas d'autres adjectifs à donner. Je ne sais pas, Serge, ce que vous en pensez, si l'adjectif vous convient.
C'était un vrai bonheur du début à la fin. L'ensemble de la distribution, tout était à sa place et parfaitement émouvant et bien fait. Quoi.
Et Claudia Pavone en tête, Robert, votre avis.
Oui, alors Claudia Pavone, ce n'est pas la première fois qu'elle vient à Toulouse, hein, puisqu'elle nous a fait une Traviata il y a quelques années. Alors c'est une découverte pour Toulouse que nous devons à Christophe Gristy, c'est lui qui l'a invité pour la première fois. Et il a réinvité cette saison, d'ailleurs, pour chanter Cléopâtre.
Cléopâtre dans Jules César.
Dans Jules César, voilà. Très clairement, Christophe Gristy lui offre la possibilité d'orienter sa carrière vers d'autres rôles.
Bien sûr.
Voilà, mais c'est une opportunité incroyable qu'il lui offre. Et en plus, elle a su la saisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà.
Moi, je l'ai trouvée parfaite.
Claudia Pavone, de toute façon, le rideau se lève. Elle est seule en scène avec le cerf blanc derrière. Et elle ne bouge pas. Elle est en tenue de prêtresse, de druidesse. Déjà, le masque qu'elle a, son visage, sa mimique, vous fait passer le frisson. On sent qu'il va se passer.
C'est une tragédienne.
Voilà. C'est une tragédienne, c'est une artiste. C'est une artiste, voilà. Et quand elle est revenue, puisqu'après, bon, il se passe autre chose, avant qu'elle recommence à chanter, quand elle est revenue, vous savez que le Castadive a précédé de quelque chose de très important et très difficile à réaliser, c'est un récitatif. Dans lequel elle va expliquer peut-être qu'il faut attendre un peu avant de déclarer la guerre aux Romains et de tuer toute la garnison qui est dans le coin. Et pour cause, on le sait, puisque chef de garnison, c'est le père de ses enfants. Mmh. Et donc, elle est sédition, si voci, elle dit aux guerriers gaulois, mais taisez-vous. Là, elle doit être impériale. Et ça, il faut jouer sur les couleurs du timbre, sur le grain de la voix même, ce qui est encore plus difficile. Et ça, elle l'a fait, moi, elle m'a fait passer le frisson. Il m'a semblé que j'entendais certaines autres grandes normes que j'entendais depuis 50 ans. Quoi. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, une fois ce récitatif déclamé, c'était presque une déclamation, sauf que c'était chanté. Cette fois-ci, c'était chanté. Oui. Ce n'était pas du sprechgesang.
Quelqu'un le faisait.
Après, elle a attaqué le Castadive. Et là, dès que la voix s'est posée sur le timbre, sur le fil de la voix, sur le legato, etc., alors là, on a cru. Ouais. Moi, je suis comme vous deux. J'ai cru rêver, comme tous les spectateurs d'ailleurs.
Oh ben elle a été acclamée à la
fin du Castadive.
Je ne parle même pas des acclamations qu'elle a reçues à la fin de l'opéra lui-même.
La cabalette qu'elle a ornée, mais magnifiquement. Ouais. Enfin, voilà.
C'est une voix très homogène, elle a des graves magnifiques.
C'est une immense norma que le Capitole, Christophe Gristy, dont d'accord, nous fait découvrir.
Créé au Capitole.
Ouais. Mais elle n'a pas été la seule grande découverte. Voilà, c'est ce
qui est extraordinaire. Dans cette distribution, cette seconde distribution, il faut qu'on parle des autres rôles principaux, parce qu'ils sont tous parfaits aussi. Serge, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Absolument. Il n'y avait pas une faiblesse. Tout était d'un très haut niveau. Hein.
Il n'y avait pas une faute de goût.
Non. Alors, il y avait une Française.
Eugénie Jauneau.
Eugénie Jauneau, voilà. 29 ans.
Adalgisa, prise de rôle.
Magnifique scéniquement. Elle porte le péplum avec une élégance, une race absolument incroyable.
Oui, parce qu'il faut ça aussi dans ce rôle.
Eh ben, oui, il faut ça aussi, exactement. Et la voix est magnifique. Alors, elle est mezzo-soprano. Mais elle veut se diriger vers les sopranos dramatiques.
Alors, vous, Serge, vous avez aussi assisté à une représentation avec Eugénie Jauneau dans le rôle d'Adalgisa.
Oui,
et il se trouve que moi, je suis allé à l'avant-dernière représentation le samedi, qui était la dernière de cette seconde distribution. Et elle était malade, Eugénie Jauneau. Donc, il a fallu la remplacer. Christophe Gristy, alors ça avait été annoncé, mais il est monté sur scène pour expliquer qu'il s'est débrouillé pour trouver une Adalgisa en Géorgie. On va parler tout à l'heure du second Pollione qui est géorgien aussi. Salomé Gicia, extraordinaire, vraiment formidable, à la fois en tant que comédienne, en tant que chanteuse. Et les duos avec Claudia Pavone, mais c'était à pleurer, quoi. Tellement c'était beau. Elle est venue pour une représentation, c'est ça qui est dingue. Il a réussi à nous trouver une intelligence de remplacement, un peu sans doute en un ou deux jours, qui était formidable. Et ça, ça s'appelle le respect du public aussi.
Voilà.
Mais je ne vous fais pas une représentation au rabais, même si il aurait pu dire, bah, écoutez, vu les conditions, on prend ce qu'on a sous la main.
Alors, pour continuer, le Polyon. Pour le coup, pardon messieurs, mais je suis un peu moins fan que vous. Mikhail Chechaberidze, ça, on ne peut pas dire qu'il n'a pas une voix.
À la mesure du gabarit du personnage.
Oui, voilà.
Parce que le bonhomme, est, je peux dire, c'est le géorgien deuxième ligne de rugby. Hein.
Oui, complètement.
Colossal.
Alors là, il n'y a rien à redire. Mais je trouve que le grain de la voix, le style, la musicalité, j'ai préféré Luciano Ganci. Je trouve qu'il était plus,
mais peut-être que si on avait vu la distribution, on aurait pensé à
le personnage. Mais plus
bon,
dans le personnage.
Nous, on a pas
celui-là, je l'ai trouvé un peu brut de décoffrage.
Ouais.
Quoi, voilà. Et Bellini peut se chanter autrement, quand même, je crois. C'était loin d'être mauvais. Loin s'en faut. Il n'a absolument pas détruit niveau général. Loin s'en faut.
Mais
bon, voilà, je crois que Luciano Ganci était un peu plus.
On a compris votre préférence.
À mon sens. Et en fait, il y avait le successeur, entre guillemets, de Roberto Scanzuzzi, une jeune, toute jeune basse italienne, Adolfo Corrado. Je ne vous cache pas qu'il n'a pas quitté Scanzuzzi d'une minute, pas pendant un mois et demi. Voilà. Mais enfin, il le connaît, il a déjà travaillé avec lui. Et tout ce que dit Scanzuzzi pour lui, c'est inscrit dans le marbre.
Oui.
Quoi. Et il faut dire que...
Alors, moi, j'ai trouvé aussi
il a été,
ce rôle.
Et vraiment, moi, je suis très impatient de l'entendre s'exprimer vraiment.
Dans des rôles dans un peu plus consistants.
Voilà, c'est ça, Eric.
Cela dit, moi, j'ai trouvé qu'en plus, pareil, voilà. Grand gabarit aussi. Bon,
voilà.
Pareil, Tourbasse, en général, ils sont plutôt costauds. Le côté ténébreux et inquiétant qu'il avait...
Il a tout pour lui, dans ce rôle. Il a
un
physique, il a une projection vocale.
Oui, oui.
Un timbre vraiment d'une noirceur remarquable. Et puis surtout, avec des harmoniques graves qui montent dans l'aigu.
Oui, tout à fait.
Son aigu ne s'éclaircit pas du tout.
Ah oui.
Enfin, encore une fois, c'est Christophe Christi qui l'a découvert. C'est la deuxième fois qu'il vient. Hein. La première fois, c'était dans un rôle tout autre, mais j'espère qu'on reviendra l'entendre. Oui, bien sûr.
Ça me paraît évident. Alors, moi, je n'ai pas d'extrait de Claudia Pavone dans Norma, évidemment, puisque c'était une prise de rôle. En revanche, j'ai une version de Casta Diva, chantée par Salomé Gicia, donc cette chanteuse géorgienne qui est venue faire Adalgisa un peu au pied levé. Et donc, on va l'écouter dans la seconde partie de cet air fameux.
Thank you.
magnifique Salomé Gicia qui chantait ici la seconde partie de l'air Casta Diva. Vous la connaissiez pas, vous avez
non.
vu ça un peu?
Non.
Pas entendu
je la connaissais pas et je suis meurtri de ne pas l'avoir entendue parce que là, ce que j'entends là est stupéfiant.
Mais c'est l'autre stupéfiant. Jour, c'était stupéfiant. Et je vous dis, voilà. Le duo avec Claudia Pavone, ouais. C'était à pleurer tellement c'était
alors,
bon.
Alors, je ne sais pas quelles sont les antennes de Christophe Gristy, mais... vraiment,
vous vous rendez compte, elle est venue pour une représentation.
Elle ne trompe pas beaucoup. Ben, j'espère qu'il va la refaire, parce que vraiment, j'aimerais l'entendre en direct. Et vraiment.
J'espère que vous serez entendu et qu'on aura le plaisir de revoir donc, les sopranos, d'ailleurs, géorgiennes. Dernier événement sur lequel nous souhaitions revenir lors de ce retour arrière, le concert de l'orchestre du Capitole donné vendredi 4 avril à la Halle au Grain. Serge, c'était les retrouvailles du chef d'orchestre russe Maxime Emelianichev avec l'ensemble symphonique toulousain. Et il officiait ce soir-là non seulement la direction, mais aussi au piano.
Mais oui, c'est un homme orchestre. Rappelons qu'il dirige l'ensemble Hippomodore et qu'il a une culture baroque et classique très intense. Et pourtant, il a débuté son concert avec une création de la compositrice britannique née en Russie, Elena Lang, avec une œuvre vraiment étonnante, une suite de son propre opéra intitulé Figaro Gets Divorce, qui est un peu la suite de la trilogie Beaumarchais, en six mouvements, très richement orchestré, avec un ensemble foisonnant de percussions. Ça a été une belle découverte, vraiment, avec une rutilance de l'orchestre extraordinaire. Et puis donc est arrivé le concerto pour piano et orchestre numéro 23 de Mozart, avec la double intervention donc, de Maxime Emelianichev, à la fois comme chef et soliste. Et puis, il en donne une version qui hérite de sa longue familiarité avec les musiques dites anciennes. Comme cela se pratiquait beaucoup à l'époque de Mozart, il ornemente énormément. Il agrémente le texte original, comme le faisait Mozart à l'époque, puisque Mozart composait ses concertos pour piano pour lui-même, et il arrivait quelquefois qu'il n'avait pas écrit la partition pour piano, pour la création, et qu'il l'improvisait au moment. Eh bien, c'est l'impression qu'a donné Maxime Emelianichev, en précédant même le début du concerto par une cadence, tout seul, vraiment une succession des trois mouvements magnifiques, avec ces échanges entre l'orchestre et le piano, magnifiquement réalisés, évidemment, puisqu'il est à la fois aux deux. Il a eu un énorme succès et il est revenu pour un bis. Et le bis, c'était La rêverie de Schumann, extraite des scènes d'enfants qu'il a joué avec beaucoup de poésie et beaucoup de sérénité. Et puis toute la seconde partie était consacrée à la 5e symphonie dite Réformation de Félix Mendelssohn, une symphonie qui n'est pas la plus jouée des cinq de Mendelssohn. On entend beaucoup plus
l'écossaise,
souvent l'italienne et l'écossaise. Et là, vraiment, il a souligné la diversité des caractères et des contrastes musicaux qu'il y a dans cette symphonie, avec notamment, il a comme insisté sur le thème que Wagner a emprunté ensuite à Mendelssohn pour l'utiliser dans Parsifal. Donc lui qui disait pique-pendre de Mendelssohn a quand même su utiliser son thème principal du prélude de Parsifal. Donc on a eu une succession des quatre mouvements vraiment très bien faite, avec de la couleur, une touchante nostalgie de l'andante et puis surtout l'allegro final qui débute par un grand choral, Ein Festburg ist unser Gott, notre Dieu est une solide forteresse, dont la mélodie a été quand même écrite par Martin Luther, et donc Mendelssohn a reprise. Ensuite, le mouvement le plus développé de la symphonie, et il a vraiment entraîné tout l'orchestre dans une sorte d'exaltation, avec une ferveur irrésistible. Très beau moment, et donc je pense que nous aurons le plaisir de le revoir à la tête de l'orchestre dans quelques prochaines saisons.
Depuis quelques années, on le voit.
Ah oui, on le voit régulièrement. En plus, c'est un personnage extraordinaire.
Oui, c'est une sorte de lutin de musique classique.
Oui.
Donc, Maxime Emelianichev dirigeait l'orchestre du Capitole vendredi dernier à la Halle au Grain lors de l'exécution du concerto numéro 23 de Mozart. Du piano. Nous allons l'écouter dans le célèbre deuxième mouvement adagio de cette œuvre, mais c'est au pianoforte qu'il le joue ici, dans une version où il est accompagné par l'ensemble Il Pomodoro. Thank you. le deuxième mouvement Adagio du concerto pour piano numéro 23 de Mozart, interprété par Maxime Emelianichev au pianoforte, accompagné par l'ensemble Il Pomodoro. C'est avec lui que nous concluons cette longue première partie d'émission, une courte virgule musicale, avant de revenir à l'antenne dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chosy et Robert Pénavert. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Cette partie agenda va être beaucoup plus courte puisqu'il n'y a qu'un seul concert à vous annoncer d'ici à notre prochaine émission, celui de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. Il a lieu ce jeudi 10 avril à 20h et il va nous permettre de retrouver un musicien et une musicienne qui font partie des plus médiatiques de la scène classique actuelle, qu'on entend de surcroît tous les ans à Toulouse et parfois même à plusieurs reprises. En revanche, je pense que c'est la première fois qu'on va les voir ensemble aux côtés de notre ensemble symphonique, Serge.
Oui, aux côtés de l'ensemble symphonique, certes, mais ils ont très souvent joué ensemble en tant que pianiste et violoniste, puisque la pianiste s'appelle Martha Argerich, qu'on ne présente plus, et le violoniste s'appelle Renaud Capuçon. Donc, voilà, tous les deux viennent, mais Renaud Capuçon, là, dirigera l'Orchestre National du
Capitole. Il ne va pas du tout se produire en tant que violoniste.
N'oublions pas qu'il est directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Donc, il a pris la baguette depuis longtemps, depuis un certain temps. Il donne un programme alors très ouvert, très varié, avec comme première œuvre une œuvre de 1923 d'une compositrice du XXe siècle qui s'appelle Charlotte Sohi. Je ne connaissais pas ce nom. Et l'œuvre s'appelle « Danse mystique ». Elle fait partie des rares pièces que la compositrice a consacrée à l'orchestre.
Donc, très belle pièce, je l'ai écoutée, assez debussiste.
Oui, oui.
C'est une contemporaine, plus tardive, c'est la génération
c'est
d'après.
C'est impressionniste.
Mais c'était une amie, oui, tout à fait, et c'était une amie de Nadia Boulanger et de Mel Bonis, donc elle fait partie de ces compositrices françaises du début du XXe siècle qu'on a redécouvertes ces dernières années, notamment grâce au Palazzetto Bruzzani, qui promeut la musique romantique française.
Donc on va découvrir cette compositrice du début du XXe siècle. Ensuite, nous entendrons le concerto pour piano et orchestre en ut majeur, le numéro 1, que Beethoven avait dédié à son élève Barbara, dite Babette. Et donc la soliste sera Martha Argerich. Évidemment, donc on peut s'attendre...
Elle l'a dans les doigts depuis longtemps, celui-là.
Absolument. Et puis, la deuxième partie du concert sera occupée par, la lumineuse symphonie numéro 8 d'Antonin Dvorak, celle qui précède la fameuse symphonie du Nouveau Monde, qui est une œuvre vraiment très lumineuse, très belle, pas aussi souvent jouée que la symphonie du Nouveau Monde, et c'est peut-être dommage. Donc, nous aurons l'occasion de l'entendre.
Il faut en profiter.
Pour en intégrale, évidemment.
Alors, je ne sais pas s'il reste des places pour ce concert, mais à mon avis, il faut vous dépêcher si vous voulez y assister, parce que ça ne doit pas être loin d'être complet. Voici Martha Argerich, toujours au meilleur de sa forme pianistique, à bientôt 84 ans, qui joue le troisième mouvement Rondo Allegro Scherzando du concerto numéro 1 de Beethoven. Le troisième mouvement, Rondo Allegro Scherzando du concerto pour piano numéro 1 de Beethoven, joué par Martha Argerich. La grande pianiste argentine est en concert avec l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Renaud Capuçon ce jeudi 10 avril à 20h à la Halle aux Grains. Elle va interpréter ce même concerto numéro 1 de Beethoven et vous allez pouvoir aussi entendre lors de cette soirée Danse Mystique, une pièce de Charlotte Soy, ainsi que la symphonie numéro 8 d'Antonin Dvorak. La billetterie est en ligne sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Également le jeudi 10 avril à 20h, mais à Saint-Pierre-des-Cuisines, il y a un concert du trio Kazantzakis, formé de trois professeurs du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Il s'agit d'un trio avec piano qui va jouer deux œuvres composées pour ce type de formation, le trio élégiaque numéro 2, opus 9 en ré mineur de Serge Rachmaninoff et le fameux trio en la mineur de Maurice Ravel. L'entrée pour ce concert est libre dans la limite des places disponibles. Vous pouvez vous renseigner si vous le souhaitez en consultant le site www.conservatoire.toulouse.fr. Je remercie mes amis Serge Chosy et Robert Pénavert qui m'ont encore une fois assisté très précieusement et brillamment dans l'animation de ce numéro. Merci également à Christophe Aubry à la réalisation de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, aux fidèles comme aux nouveaux auditeurs de Mélomanie. Très bonne semaine musicale à vous, elle va être un peu plus calme que les précédentes.